بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أليس الله بكاف عبده؟ Verset qu'on a expliqué la dernière fois, qui nous rappelle qu'Allah Rabbul Izza suffit à son serviteur. On avait expliqué en introduction le sens de Al-Kifaya. Allah Azza wa Jal, c'est celui qui te protège, qui te suffit et qui t'accorde ce qui t'est nécessaire. En termes de rizq, en termes de facilité pour vivre, en termes de hifz, de protection, c'est Allah qui garantit ta protection. Wa nusran wa izza, c'est Allah qui t'accorde son aide, sa nusra donc, et l'honneur dans toute situation. Et Allah Azza wa Jal, c'est celui également qui addafi'u anhum kullama yakrahun, celui qui te protège contre toute chose qui peut être préjudiciable. Allah, c'est celui qui t'accorde, qui te protège, qui t'honore, qui t'élève et tout, mais c'est également celui qui te protège contre toute chose qui est mauvais et qui peut être donc préjudiciable. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point qu'on a vu la dernière fois, وَالَّذِي يُكْتَفَى بِمَعُونَتِهِ عَمَّنْ سِوَى, c'est celui qui, lorsqu'il te protège, tu n'as besoin de personne d'autre. Donc ça, c'est ce qu'on avait essayé de développer la dernière fois. Et puis on avait parlé d'autres sujets en rapport avec la mort et ainsi de suite. Et un peu le verset Alayhissallahu bikafin abda. Alors justement, par rapport à ce verset qui se trouve dans la sourate Az-Zumar, les savants disent qui sont ces serviteurs. Abd, abd, ça veut dire serviteur. Quand on dit Abdullah, serviteur d'Allah, tout le monde ne peut pas avoir ce titre honorifique d'être vraiment serviteur d'Allah. Qui sont les personnes qui bénéficient justement de cette protection, du fait qu'Allah le suffit? On lit la traduction, Allah ne suffit-il pas à son serviteur comme soutien? Donc, quelles sont les conditions que je dois réunir pour bénéficier de cette nusra, cette aide d'Allah et ce soutien d'Allah Azza wa Jal? Donc, l'auteur explique, allez, on va aller plutôt vers la conclusion, pour qu'on dégage bien l'idée. Celui qui man qama bi ubudiyyatihi adh-dhahirati wal batina, c'est ce croyant qui va consacrer sa vie à l'adoration d'Allah adh-dhahira, par les actes d'adoration externes, la salat, la lecture du Coran, le dhikrullah, les actions qu'on accomplit au quotidien, mais également al batina, celui qui adore Allah au plus profond de son cœur, en développant l'amour pour Allah, la crainte d'Allah, la confiance en Allah, la pensée permanente d'Allah, aimer en Allah, et ainsi de suite. Toutes les qualités, les a'mal al-qulub aussi qu'on appelle, les qualités intérieures, c'est-à-dire ce croyant qui a atteint un degré de foi qui est kamila, qui est complète, avec, mashallah, une certaine, je ne dis pas le mot perfection, mais il atteint un sommet en termes de pratique externe, mais également intérieurement son iman, et mashallah, il travaille sa foi au quotidien. C'est cette personne-là, et donc le tu as dit, « Man qama bi'ubudiyatihi adh-dhahirati wal-batinati », ça on a dit, « Wa amtathala amrahu mukhlisan » et qui obéit aux ordres d'Allah avec sincérité. Après, on peut dire que la notion de sincérité fait partie du batin. Mais celui qui, dans toute sa vie, est sincère et recherche l'agrément d'Allah, le contentement d'Allah dans tout ce qu'il fait. Et la sincérité, c'est dans l'accomplissement des bonnes actions, mais la sincérité, c'est également dans l'éloignement des péchés. Quand je m'éloigne d'un péché, c'est pas que je ne fais pas tel péché parce que ça me dégoûte, ou alors parce que ce n'est pas de mes habitudes, ou alors qu'à notre époque, ou alors les gens diront telle chose. Non, si je m'éloigne de tel péché, c'est parce qu'Allah Rabbul Izzah n'aime pas ce péché, n'aime pas cette action. Donc ça, c'est la sincérité également quand je reste éloigné d'un péché. Donc, si on remonte un peu ces conditions, celui qui adore Allah par les bonnes œuvres, qui adore Allah au plus profond de son cœur en réunissant les conditions de foi, qui obéit aux ordres d'Allah avec sincérité, qui donne un sens à son adoration d'Allah, wa muqtadiyan bi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Muqtadiyan, il y a peut-être une racine ou un mot qu'on connaît, c'est al-iqtida. Al-iqtida, c'est un synonyme de al-ittiba'. Et ittiba', c'est suivre. Il y a que toutes ces bonnes actions que tu accomplis au quotidien, tu le fais, tu recherches l'agrément d'Allah, mais ces actions-là doivent découler de la pratique de notre prophète alayhi salatu wa sallam. C'est extrêmement important.
Là, l'auteur fixe le cadre du ibada. Il aurait pu faire plus simple et dire que celui qui adore Allah et le verbe adorer. Celui qui adore le service, celui qui adore Allah devient Abdallah, devient serviteur d'Allah. Et quand on est serviteur d'Allah, Allah t'a dit Alaysa Allahu bikafin abda. Donc l'auteur aurait pu faire un raccourci et dire si tu adores Allah, tu es considéré comme étant serviteur d'Allah, donc tu as la protection d'Allah. Non, mais l'auteur va développer le sens du ibad pour qu'on comprenne bien. Une personne peut passer des heures et des heures ou malheureusement des années de sa vie à faire certaines bonnes actions, à faire certaines actions qu'il pense être de bonnes œuvres, mais si l'action ne découle pas directement, mais je dis bien directement, sans interprétation, sans rajout, sans dire que oui mais on a cette tradition, on a cette habitude, on nous enseignait, j'ai appris. Non, la pratique doit venir directement de l'enseignement du prophète alayhi salatu wassalam ou de l'enseignement des quatre califes, parce que les a'mal des quatre califes font partie de la sunna. Celui qui accomplit donc, je reprends ses bonnes œuvres avec sincérité pour Allah et en suivant donc le modèle prophétique, il continue, ça fait quatre conditions à peu près, je ne vais pas compter, wajtanaba ma naha anhu, et qui reste éloigné de tout ce qu'Allah a interdit. Donc vraiment il donne une définition très large du abdallah, du serviteur d'Allah, parce que je peux me considérer comme serviteur d'Allah parce que tous les matins l'ouverture de la masjid, c'est quelle l'ouverture de la masjid? C'est pas vous qui faites l'ouverture, vous nous mettez dehors le soir là, tout simplement 4h30, non, à peu près. Oui. Allez, imaginez que je me considère comme un abdallah, serviteur d'Allah, parce qu'à 4h30, mashallah, je suis devant la porte de la masjid et je suis premier, je fais mon qiyamul layl jusqu'à le adhan de Fajr. Ensuite, je fais mes deux rakats, mes sunnats de Fajr. Je reste en état de dhikrullah jusqu'à la salat commence. Je reste jusqu'au shuruq, mashallah. Celui qui fait ça tous les jours, ça doit être un modèle pour nous. Donc cette personne se considère comme abdallah, sauf que, quand il rentre à sa maison et qu'il va au travail, mais il fait un travail qui est illicite, ou alors qu'il y a des transactions illicites. Donc, je ne suis pas un pieux serviteur d'Allah. Même si j'accomplis des bonnes œuvres qui sont exceptionnelles, je fais un umrah tous les mois. Imaginez, hein, il peut y avoir des gens comme ça. Moi, hajj régulièrement tous les ans, et beaucoup de bonnes choses. Mais si ces bonnes choses sont malheureusement accompagnées de péchés, de désobéissance aux ordres d'Allah, tu n'es pas un vrai abdallah et donc tu ne bénéficies pas de alayhisallahu bikafin abda. Voilà, c'est vraiment une définition très intelligente et une approche vraiment très technique de l'auteur. Je reprends donc wajtanaba ma naha anhu, et là aussi quand il dit il reste éloigné de ce qu'Allah a rendu haram, c'est pas par pure tradition, par habitude ou comme on a dit tout à l'heure, enfin j'avais un peu amorcé tout à l'heure, il dit khawfan minhu wa ijlalan wa muhabbata. Quand je m'éloigne du péché, c'est par crainte d'Allah. C'est vraiment au moment où je suis exposé au péché, au haram, je ressens plus profond de mon cœur la crainte d'Allah. Et je ressens le regard pesant d'Allah sur moi. Et je me dis que je ne peux pas me permettre de désobéir à Allah délibérément. Wa mahabbatan, et par amour aussi. Rester éloigné d'un péché par amour, dire j'aime tellement mon Seigneur que je ne peux pas me permettre de le désobéir. Ça, c'est une réaction de foi. Hein. C'est important, ça, de mettre ça en place. Quand on est face au haram, c'est pas uniquement tu fais pas le haram parce que j'ai peur du châtiment d'Allah. Genre, je me dis que oui, d'un instant, mais regarde ça sur Internet, là, demain, ils vont avoir un accident. C'est une façon de voir les choses. Mais non, c'est quand tu t'éloignes du péché, tu le fais par crainte d'Allah, bien sûr, mais également par amour pour Allah. J'aime tellement mon Seigneur, je répète, que je ne peux pas me permettre de le décevoir et de le désobéir. Fa inna Allah. Et quand est-ce qu'on a le fa? Fa, la lettre fa. Hein? Fa, c'est pour dire et ainsi. Et donc, si tu réunis ça, toutes ces conditions, fa inna Allah sayakfihi fi amri dinihi wa dunya. Dans ce cas de figure, en réunissant toutes ces conditions, Allah Azza wa Jal, Allah Rabbul Izzah, va te suffire, te protéger, t'élever, et ainsi de suite, dans tout ce qu'il te faut, de ton dunya, mais également de ton din. Le monde dans lequel tu évolues, tu auras cette protection d'Allah, et bien sûr en amont dans وَيَدْفَعُ عَنْهُ, et Allah éloignera de toi les gens qui te veulent du mal, qui ont le niyat même, l'intention même de te faire du mal. Naam. Regardez le nombre d'ennemis que le prophète alayhi salat wa salam avait. Quand il a quitté Madina, c'était pas uniquement les Quraysh qui lui en voulaient. Au départ, c'était les Quraysh, parce qu'ils étaient vraiment, on va dire, pour eux, c'était une humiliation qu'un de leurs enfants ose aller à l'encontre de la religion de leurs ancêtres. Donc, il pouvait y avoir une certaine opposition qui était plus liée au lien du sang. Mais quand le prophète alayhi salat wa salam quitte Makkah pour aller à Madina, et donc, et bien sûr, le prophète a quitté Makkah, question Sajid. Il a quitté Makkah avant les Sahaba ou après les Sahaba?
Après.
Bonne réponse. Rahman, on est d'accord? Il a quitté Makkah après que la plupart des Sahaba aient déjà quitté Makkah pour aller à Madina. Et donc, quand le prophète va à Madina, juste avant, les Quraysh s'étaient réunis. On connaît le verset. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. C'était, je ne vais pas aller dans le cours du Sirat, mais les Mekwa s'étaient réunis, ils ont essayé de trouver une solution. Qu'est-ce qu'on fait de lui? Est-ce qu'on va l'emprisonner? Est-ce qu'on va le tuer? Est-ce qu'on va le bannir? Ainsi de suite. En fait, à cet instant précis, c'était toutes les tribus qui lui en voulaient. Parce que de la plupart des tribus, il y a eu des sahaba, des reconvertis, je fais le mot, des personnes qui ont accepté l'islam et qui ont donc quitté le noyau familial pour aller à Madina pour pratiquer la religion du tawhid. Et pour toutes ces familles, c'était un affront et d'une certaine façon une humiliation. Donc, pourquoi je vous disais ça? Le nombre d'ennemis que le prophète avait. Mais Allah l'a toujours protégé. Donc, je prends mon prophète comme modèle dans le fait qu'il a obtenu la protection d'Allah. Donc, je peux moi aussi espérer obtenir la protection d'Allah à condition que j'essaie d'avoir une relation très forte avec mon Seigneur de la façon que le Torah a détaillé et il a défini de façon très simple et très globale le sens même du ibadah hada. Et de cette façon, je reprends le dernier terme, wala yahtaju al-'abdu fi kifayatihi, wala yahtaju al-'abdu fi kifayati Allah ila ghayrihi. Et ce serviteur qui sait qu'il a la protection d'Allah et qu'Allah le suffit, il n'a donc besoin de rien ni de personne. Et ça, c'est vraiment le plus grand honneur qu'Allah peut accorder. Que tu marches de ce dunya et le cœur est avec ton Seigneur Azza wa Jal. Naam. D'autres commentateurs, d'autres savants expliquent que ce serviteur-là, qui atteint ce haut degré de foi, mais je le dis, je répète et j'insiste, c'est ce serviteur qui arrive à donner un sens aux bonnes actions et qui arrive à donner un sens également à l'éloignement des péchés et qui fait donc ses bonnes actions suivant le modèle prophétique, mais qui travaille également son cœur en développant les qualités internes. Parce que j'ai pris l'exemple de celui qui est présent à l'ouverture de la masjid. Je reprends ce même exemple. Il a un travail cette fois-ci qui est halal. Il n'y a pas de problème, pas de riba, il ne fait du mal à personne et ainsi de suite dans son travail, dans ce mu'amala, je veux dire. Sauf que intérieurement, il a des maladies spirituelles ancrées, comme la jalousie. Entre autres, je veux me suffire de ça. C'est un manque, c'est un naqs, c'est quelque chose qui va lui porter atteinte, car sans rentrer dans les détails, le prophète m'a dit que la jalousie détruit les bonnes actions, comme le feu consume le bois sec. Donc, si la personne ne travaille pas son batin, son intérieur, il y aura toujours un manque. D'accord? Et donc, celui qui atteint le haut, ce degré de kamal, de iman, zahiran wa batinan, et qui suit la sunna du prophète alayhi salat wa salam, tout en restant éloigné des péchés, en donnant un sens à l'éloignement des péchés, il s'éloigne des péchés par amour et par crainte d'Allah, celui-là, il obtient tout de la part d'Allah. Car si Allah lui accorde quelque chose, c'est vraiment un bienfait pour lui. Alors qu'une personne qui n'est pas de le droit chemin, qui n'a pas iman, peut elle aussi avoir un bienfait équivalent. Mais qu'Allah lui donne, ce n'est pas une ni'ma pour lui, aucunement. Ça devient un bienfait à partir du moment où tu es dans le droit chemin. Et si Allah le prive de quelque chose, si Allah l'éprouve par une maladie, par un problème, ben pour ce croyant-là, l'épreuve lui est profitable. Alors que celui qui n'a pas iman, même si mon raisonnement humain ne me permet pas de bien intégrer ça, mais celui qui n'a pas la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, les épreuves ne lui apportent pas ce que les épreuves apportent à celui qui a le tawhid dans son cœur. Hada. Non. On continue. Ensuite, l'auteur va donner deux définitions de at-tawakkul, parce que c'est vraiment la notion qui doit ressortir de l'étude de ce nom d'Allah, être capable de placer sa confiance en lui, Azza wa Jal. Il va donner à deux reprises, la définition de at-tawakkul. D'abord, il commence par une définition très synthétique, et ensuite une définition qui est franchement une des plus belles que j'ai jamais lues, hein. Une définition très détaillée, un peu comme la définition de serviteur qu'on a vu tout à l'heure. On va commencer, on va suivre le tartib de l'auteur. Il dit « وَالتَّوَكُّلُ هُوَ الْاِعْتِمَادُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ فِي حُصُولِ الْمَطْلُوبِ وَدَفْعِ الْمَكْرُوهِ مَعَ الثِّقَةِ بِهِ وَفِعْلِ الْأَسْبَابِ الْمَأْذُونِ فِيهَا » Non. Donc il a repris une citation d'autres savants. Voilà, il a fait un, mashallah, une synthèse. Dido. Première, définition basique de tawakkul, c'est s'en remettre à Allah, placer sa confiance en lui, dans la recherche de tout ce que nous souhaitons, mais également contre tout ce qui nous effraie, donc contre tout ce qui nous fait peur. Donc, je reprends, c'est placer sa confiance en Allah, rechercher l'aide d'Allah pour obtenir ce qui nous est profitable, mais également pour être protégé, voilà, c'est mieux dit comme ça, également pour être protégé contre les choses qui sont mauvaises et néfastes. Ma'a thiqati bihi, avec une confiance totale en lui, et c'est là qu'on voit le juste milieu de le din. Wa fi'li al-asbab al-ma'dhuni fiha, tout en accomplissant les actes ou en faisant ce qui peut être un intermédiaire pour obtenir ce que nous voulons et pour être protégé de ce qui nous effraie. C'est-à-dire qu'en même temps, tu places ta confiance en Allah, mais en même temps, tu fais ce qu'il y a à faire. C'est un exemple basique. Quelqu'un est malade, il place sa confiance en Allah, il sait que c'est Allah qui donne la santé, qui donne la maladie, mais c'est également lui qui donne la santé. Mais la sunna, le modèle prophétique, ce que le prophète nous a enseigné, c'est que lorsqu'on est malade, le prophète nous a demandé de nous soigner. Et c'est ce qu'on avait vu dans les derniers programmes sur Ash-Shafi, enfin, il y a quelques mois. Le prophète n'a jamais dit à un croyant, si tu es malade, prie ton Seigneur et attends la santé. Non. C'est là qu'on voit ce juste milieu et cette cohérence qu'il y a dans notre dîne. Parce que si tout ce que nous voulons devait s'obtenir uniquement par les invocations, je veux dire, sans que l'être humain bouge et fasse un effort, la religion, elle aurait été très difficile à vivre. Et les gens n'auraient pas pu s'imprégner de cette spiritualité parce que ça dépasserait trop l'entendement humain. Ça aurait été trop complexe. Mais le fait que le prophète nous a enseigné, place ta confiance en Allah, mais en même temps, fais ce qu'il y a à faire, c'est là que ça devient accessible et cohérent. Nous ne recherchons pas forcément ce qui est logique et cohérent, mais nous restons des êtres humains avec un mode de fonctionnement, et l'enseignement prophétique, c'est l'enseignement le plus adapté à notre mode de fonctionnement, et qui est divisé en, je ne dis pas divisé en deux, hein, je ne sais pas c'est quoi la part, mais qui a deux parties, c'est mieux de dire qu'il y a deux parties. La confiance en Allah, tu lui demandes, et ensuite tu fais ce qu'il y a à faire avec espoir et conviction qu'Allah peut t'accorder ce que tu veux par l'action que tu fais. Et au cas où, malgré le asbab, Allah ne te l'a pas accordé, c'est qu'il y avait un bien et une sagesse d'Allah dans le fait que tu n'obtiennes pas ce que tu veux malgré les asbab. Donc je reprends l'exemple de la maladie, qu'Allah nous protège et guérit ces personnes qui sont malades. Le prophète nous a enseigné que quand on est malade, tadawa wa ibad Allah, prenez les médicaments qu'il faut. Placez sa confiance en Allah. Et le médicament est un asbab, mais en finalité, tu sais que ce asbab va agir si Allah l'a permis. Naam. Parce que parfois, il y a des gens qui sont un peu trop, on va dire, qui ne respectent pas cet équilibre. Je commence par le contre-exemple, et là, on va comprendre ceux qui pensent que voilà, n'importe quel problème peut se résoudre par nos actes, nos contacts, nos relations des intermédiaires. Et là, ils oublient la confiance. Donc ça, c'est faussé. Je pense que ça, c'est l'exemple le plus facile à comprendre. Mais dans l'autre sens aussi, il y a des fois où beaucoup de gens pensent que voilà, Allah, il fait tout. Et toi, tu ne fais rien. D'accord? Par exemple, il dit, écoute, vous savez, vous savez, ça travaille le matin. Fatigue ou travail, machin. Bah, il reste dans masjid. Reste dans masjid. Le hadith, il dit que celui qui place sa confiance en Allah à 100%, c'est comme l'oiseau. You know? L'oiseau qui quitte son nid le matin, le ventre vide, et qui revient le ventre plein. Et là, après, ils vont greffer, mais est-ce que cet oiseau, il a fait des études? Est-ce que cet oiseau a un employeur? Non, donc c'est Allah qui le nourrit, Allah peut te nourrir. Oui, mais après, si on décortique, hein, ça c'est la compréhension un peu en surface, mais si on ouvre les livres, parce qu'à un moment donné, il faut peut-être ouvrir un peu les livres aussi, hein, voir ce que les savants, les grands savants ont expliqué, dit que mais cet oiseau-là, il se réveille le ventre plein, le ventre vide, et il retourne le ventre plein. Mais en attendant, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas resté dans son nid. S'il était resté dans son nid, le bec ouvert, il n'y aurait rien eu. Il s'est envolé, il est parti à droite, à gauche, et ainsi de suite. Il dit, pareil pour l'être humain. Tu sais qu'Allah va te donner ton rizq. C'est écrit depuis que tu es le ventre de ta maman, subhanallah. Mais Allah te demande de faire les efforts. D'accord? Donc c'est ce côté, ce juste milieu, ce wasatiyya qui est important à souligner. Donc l'auteur donne une première définition, on va dire synthétique, du at-tawakkul. Et puis l'autre définition ne sera pas pour aujourd'hui. Elle est tellement dense et tellement belle qu'il faudra du temps pour développer. Maintenant, si on se base sur cette première approche qui est connue de tous, de la confiance en Allah, le thamarat, qu'est-ce qu'Allah t'accorde? Qu'est-ce qu'Allah accorde à son serviteur qui place sa confiance en lui? Alors, je lis le texte parce que c'est vraiment très beau. Ja'ala Allahu ta'ala li kulli. Ah non, ça c'est un autre sujet. Voilà, je suis parti vers le point suivant. Les savants disent que dans la plupart des bonnes actions que nous accomplissons, Allah te donne une récompense. On appelle ça min jinsil amal. C'est une expression qu'on ne peut pas traduire. Allah te donne une récompense qui est en relation avec la nature de l'action. Je donne un exemple. Si j'aime aider les personnes dans le besoin, je le fais par moi pour Allah, par sincérité, avec toutes les conditions qu'on a citées. Mais très souvent, quand tu aides ton prochain, Allah envoie des gens sur ton chemin quand tu es dans ta clive, dans difficulté. C'est ce qu'on appelle al-jaza'u. C'est pas un hadith, hein. C'est une règle. Al-jaza'u min jinsil amal. Que souvent, la rétribution, elle est conforme à l'action que tu avais accomplie. Donc, si tu aides les gens, on a espoir que dans une situation d'adversité, Allah t'envoie son aide. Il dit donc wajaza waja'ala jaza at-tawakkul 'alayhi nafsa kifayatihi li'abdi. Là on est des trucs très techniques. Il dit que celui qui place sa confiance en Allah, quelle est donc la nature de la récompense? C'est le summum. Tu places ta confiance en Allah, Allah te donne quelque chose qui va englober cette bonne action, c'est Allah te suffit. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Celui qui place sa confiance en Allah, Allah le suffit. Tu fais cet effort, tu t'en remets à lui et en récompense, Allah te donne quoi? Allah te suffit pour tout ce que tu as besoin et contre tout ce qui te fait peur et pour lesquels tu demandes protection. Et là, le Mufassir dit « وَلَمْ يَقُلْ نُؤْتِهِ كَذَا وَكَذَا مِنَ الْأَجْرِ ». Le verset ne dit pas que celui qui place sa confiance en Allah, Allah lui accorde telle chose et telle chose et telle chose. Non. Le verset est beaucoup plus global. Allah le suffit de tout. Et l'auteur, ensuite, on revient à notre texte, il dit « Bal ja'ala nafsahu subhanahu kafiya abdahu al-mutawakkal alayh. » C'est Allah qui se porte garant de ce serviteur qui place sa confiance en lui parce que « i'tamada bi qalbihi ala rabbihi i'timadan qawiyan kamila » parce que ce serviteur a mis de son cœur la confiance en Allah en priorité. Et une confiance qui est puissante et inébranlable malgré le dénouement des situations de crise, je rajoute. Quelle que soit la situation de crise que tu vis, problème de santé, problème de couple, problème de famille, problème de finances, perte d'un proche, c'est à peu près les grandes lignes des épreuves, ce serviteur est confiant en la décision de son Seigneur, parce qu'en amont, il a ce qu'on appelle le husnu dhanni billah, il sait qu'Allah agit toujours de la meilleure des façons avec son serviteur. Il fait doua, il fait ce qu'il y a à faire en termes de asbab, et en finalité, quel que soit le résultat, qu'il obtienne ce qu'il voulait, ou alors même si l'épreuve le devient encore plus lourd et plus accablant, ben ce serviteur garde le cap, il reste ferme dans sa conviction. Ça, c'est une grande preuve de iman et une grande preuve de husn dhanni billahi azza wa jalla. Naam. Wa kafahu, je vais aller un peu plus vite, je lis la conclusion de la dernière ligne. Wa kafahu hammahu wa ghammahu. Et même ses tristesses, ses frustrations, on va aller même dire même ses angoisses, Allah azza wa jalla en égarant. Allah va apaiser son cœur. Vous savez, mes chers frères, il n'y a rien de plus puissant et il n'y a pas plus grand ni'amah que d'avoir la tranquillité du cœur. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas, qui ne s'achète pas. Ce n'est pas le confort matériel optimal qui te donne la tranquillité du cœur. Des fois, on peut penser, si tu habites dans un petit studio, tu ne termines pas le mois, tu n'as pas de voiture, tu dois prendre le bus, tu es un peu embêté. Des fois, on se dit que si j'avais une voiture, là, je serais beaucoup moins anxieux, moins stressé. Ok, on a tous des voitures, mais on est anxieux. Enfin, pas tout le monde est anxieux. Si j'habitais dans une maison un peu plus grande, si j'avais une villa, après on continue, si j'avais une villa avec piscine, si j'avais, et ainsi de suite, des fois on se dit que le confort matériel va m'apaiser. Aucunement. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire un tableau plus large que ça. On a compris que ça n'a aucun lien. Un. Des fois on se dit que avec la vie qu'on vit, avec le stress ambiant, les impôts qui n'arrêtent pas d'augmenter, avec l'inflation, avec les difficultés, ben peut-être que je prends quelques médicaments, des calmants, je ne dis pas des anxiolytiques, hein, mais des trucs qui me permettent de relâcher un petit peu, tout en restant du halal, on est d'accord. Ben peut-être que mon cœur sera apaisé. Tu as peut-être l'impression que tu as moins de tachycardie. Peut-être tu dors plus facilement le soir. Mais ce n'est pas ça l'apaisement du cœur. Ce n'est pas ça le tama'nina, c'est un terme. Le tama'nina, avec un toi, le tama'nina. On connaît le mot itminan parfois. Ça se dit en urdu itminan, avec apaisement. Bref, le tama'nina, c'est quelque chose qu'Allah met dans le cœur. Ça, c'est un grand bienfait. Qu'Allah apaise ton cœur. Vraiment, nous devons demander à Allah de nous accorder l'apaisement du cœur. Parce que l'apaisement du cœur, ça te permet de rester. J'aime pas le terme, mais c'est ce qu'on utilise dans le langage moderne, de rester zen, d'accord, dans toute situation. Il faut trouver d'autres mots, d'accord. C'est le tama'nina qu'Allah met dans le cœur de qui il veut. Et ça, c'est un grand bienfait qu'Allah accorde à celui qui arrive à placer sa confiance en lui. Parce que Abdurrahman, et puis je vais conclure, parce qu'Abdurrahman commence à somnoler, c'est la saison de Bakrid qui s'approche. On cherche entre cabri, bœuf et mouton. Ça aussi, c'est stressant, le coût des animaux, c'est cher. C'est très cher. Donc, c'est pour ça qu'on ne va pas faire plus long que ça. C'était pour réveiller Abdurrahman, ça. Du coup, on va faire plus long. Cette tranquillité du cœur, c'est justement ce que l'auteur dit, Minjin, c'est l'amal, celui qui s'efforce de placer sa confiance en Allah et d'être toujours satisfait de sa décision et ne jamais être déçu de ce qu'Allah t'a donné ou t'a privé. Mais Allah t'accorde une sakina, une tama'ina de le cœur qui te permet d'être apaisé en toutes circonstances, et ça n'a pas de prix. Vraiment qu'Allah nous accorde. On va s'arrêter à là, Inch'Allah. Et la prochaine fois, on va travailler deux textes de base qui nous permet de développer cette notion de وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Quels sont les résultats vraiment de ta vie? Qu'est-ce que Allah t'accorde? Et là, on va développer cette notion d'apaisement du cœur quand tu places ta confiance en lui, et on va essayer de développer ça à travers un verset et un hadith. Le verset, ce sera يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا. Complète. Mais non, personne ne peut compléter ça. C'est comme Moussa Barat al-Quran, si l'examinateur dit au candidat li ya ayyuhalladhina amanu, ben moi je lis anfiqou mimma razaqnakum, je lis ayatul kursi, d'accord, si on a le choix. Ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Furqan, c'est traduit par le discernement. Allah te permet de voir ce qui est vrai comme vrai. Allah te permet de voir la lumière et te permet de voir le faux, l'obscurité. Allah te permet de ne pas te tromper. et que personne ne peut te tromper, ni Shaitan, ni les êtres humains. Ça, c'est quand tu atteins le summum dans la taqwa et de la confiance en Allah. Bref, tu développes cette qualité de Ibadur Rahman. Allah te donne la clairvoyance. Ça, c'est le texte, c'est le hadith qu'on va essayer de travailler. Non, le verset qu'on va essayer de travailler. Et le hadith, c'est, qui est un peu plus long, je vais juste au shahid, que celui qui arrive à ce haut degré de foi, Allah devient, la traduction est pleine de métaphores, hein. Elle est pleine de métaphores. Les yeux par lesquels il voit, les oreilles par lesquelles il écoute, et ainsi de suite. C'est-à-dire que tu as l'aide d'Allah dans toutes les situations de ta vie. Ça découle d'une confiance totale en Allah et un sens profond et ancré du ibadah et l'éloignement des péchés. Qu'Allah Rabbul Izzah nous accorde tawfiq de comprendre et qu'Allah fasse entrer la réalité du ibadah dans notre cœur en premier. Parce que dans la définition très longue du ibadah qu'on a fait tout à l'heure, là, on se rend compte que très souvent on n'est pas très proche de l'objectif. On ne dit pas qu'on est loin, mais il nous manque beaucoup de choses. Beaucoup de choses. On pense être au top, mais intérieurement, il y a encore du travail. De toute façon, il y a du travail jusqu'à la mort. Personne ne peut se dire que maintenant, alhamdulillah, je suis un homme pieux. Je peux me reposer tranquille. Hatta ya'tiyakal wa'abud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Adore Allah jusqu'à la traduction, le sens du verset, jusqu'à ton dernier souffle, jusqu'à ce que l'ange de la mort vienne reprendre ton âme. Je termine par un conseil. La dernière fois, on avait beaucoup parlé de défunts, même vendredi, on a reparlé de ça encore. Je terminerai par, on est dans le mois de Dhul-Qa'da, on est donc, on est quoi, le 14, non? Ou le 15? Hein? On est le 16, d'accord. Et donc, en cette période, on est à un mois de Bakrid. Allez, on va faire simple, on va finir. On est à un mois du Eid al-Adha. Et le meilleur conseil qu'on peut se donner mutuellement, c'est de sacrifier un animal, de prévoir le sacrifice. Vous savez, les bonnes actions ont encore plus de valeur auprès d'Allah quand elle est accomplie dans un contexte, oui, difficile. Vous savez, quand la bonne action, elle est facile, elle est accessible. C'est une bonne action, il n'y a rien à dire, mashallah. Et Allah est tellement clément qu'il nous donne aussi, même si c'est à portée de main. Mais quand il y a une situation d'épreuve où il y a une complexité, ça va révéler quoi ? La sincérité et l'esprit de sacrifice, dans le sens de notre sacrifice, le mujahada, qu'on est prêt à faire sur nous-mêmes. C'est quoi le contexte compliqué de nos jours ? C'est le contexte financier, avec l'inflation et ainsi de suite, d'accord ? Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Quand vous passez avec votre caddie à une caisse, il n'y a plus de notes avec deux chiffres. C'est plus possible, ça. C'est toujours trois chiffres. Et à chaque fois, dit, regarde, parfois un gros mot qui sort, ou alors un terme de dit, c'est pas possible. Voilà, ça va être volé à ça, au recompte, au regarde, au machin, au calcul et tout. Et en finalité, on se rend compte que, ben non, le compte est bon, c'est une machine qui calcule. D'accord ? Mais que c'est l'inflation, c'est les prix ont beaucoup, beaucoup augmenté. Bref. Et donc, le contexte économique est complexe. Et pour ne rien arranger, le prix des animaux augmente avec le prix de l'aliment. Enfin, bref, que je ne vais pas vous dire. Il y a des spécialistes qui sont là, je ne vais pas parler de ce que je ne maîtrise pas. Moi, ce que je sais, c'est que c'est cher. Très cher. D'accord ? Moins de 400, c'est fini. Hein. Je me rappelle, il y a quelques années, je me portais garant. Je disais 250 euros, je vous trouve un cabri. Mais je ne peux plus dire ça. 250 euros, je vous trouve un chat. Un gros chat. Moins de 400, c'est compliqué. J'en ai vu des 350, mais c'est des cabris, mais tu regardes, non. Et après, on ne sacrifie pas un animal qui est maigre et petit. L'antana, le birra hatta, tulfiqu mimma tuhibbun. On atteindra la piété qu'à partir du moment où on donne de ce qu'on aime, le sens approximatif du verset. C'est-à-dire, pour que quand on donne quelque chose qui est beau, qui a de la valeur. D'accord ? C'est ce qu'on donne pour notre Seigneur Azza wa Jalla. Donc, à notre époque, je finis, c'est très cher l'Udhiya. Et ça demande un sacrifice financier important, des économies, des privations. D'accord ? Peut-être aller manger moins de sushis, aller un peu moins au restaurant, se serrer un peu la ceinture. Des fois, on se serre la ceinture parce qu'on a un projet de voyage. Je sais que je voyage en janvier, donc là, dis écoute, là, maman, il faut attention, là, il s'appuie, mange à droite, à gauche, là, une approche intelligente. On commence à économiser, on a un plan d'économie. Mais là, fais ce mujahada pour ton Seigneur Azza wa Jal. La facilité, c'est quoi? C'est 30 euros madagascar. Je sais pas si c'est toujours 30 euros madagascar. La facilité, c'est ça. Traca fini, n'a pas pour envoyer la viande pour la famille, n'a pas pour le vin, n'a pas pour nettoyer la coupe, rien. Le geste est fait. Mais est-ce qu'il y a vraiment un sacrifice dedans? 50 euros, c'est quoi? Tu sors, tu prends deux trucs au marché forain, c'est 50 euros. Est-ce qu'il y a un grand sacrifice là? Le sacrifice, c'est vraiment, tu te serres la ceinture, et je conclue là-dessus, pour acheter un animal. Pour trouver l'endroit où tu vas le couper. Pour trouver les gens qui vont t'aider. Pour nettoyer, pour ensuite prendre la viande et aller donner en main propre à des personnes qui en ont besoin. Donner en main propre à ta famille, aux proches. Et le fait de donner un morceau de viande, ça va être également un lien de muhabba qui va se créer, qui va se renforcer, ainsi de suite. Donc, faisons le niat dès maintenant. Et je peux vous le dire, il y a encore beaucoup d'animaux sur le marché. Le marché n'est pas fermé. C'est pas fermé. Il y a encore beaucoup de possibilités. Faisons tous le niat. Et là, je ne parle pas des personnes convaincues, ça ben spécialiste, ça. Mais les gens qui se sont dit que non, c'est trop compliqué, je vous le dis, faisons le niat d'acheter un animal. Faisons le niat et demandons à Allah de l'aide pour trouver le budget, pour trouver l'endroit, la place, bref, tout ce qu'on a dit, parce que c'est une action qui est tellement importante. Et même en termes de tarbiya, je dis ça tous les ans, en termes d'éducation islamique pour nos enfants, le fait que ton fils ou ta fille, ils voient comment papa donne de l'importance à cette action et que tu achètes l'animal, tu l'amènes l'endroit où tu vas couper, c'est chez toi ou chacun. Bref, et que tu t'occupes de lui avec muhabba, avec beaucoup d'humanisme, ainsi de suite, beaucoup d'humanité, pardon. Ben, l'enfant va comprendre aussi que ça, c'est la sunna d'Ibrahim alayhi salam, de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et que malgré le fait que papa aimait l'animal, il lui donnait à manger, à boire, il y en a de bonnes, ben ils ont de bœuf, oui ou non? Allah yarham akhana ma'soum qui baignait ces animaux, c'était admirable. Allah yarhamhu wa yawsi' qabrahu. Et donc l'enfant voit comment son père ou son grand-père ou machin, il donne de l'importance, il s'occupe bien de cet animal, mais en finalité le jour du sacrifice, il le sacrifie pour Allah, parce que voilà, c'est l'ordre d'Allah qui passe avant tout. C'est un message puissant. C'est beaucoup plus puissant que de dire et d'expliquer. On a quelque chose qui s'appelle at-tarbiya bil qawl, éduquer par la parole, et ça c'est at-tarbiya bil qudwa, éduquer par l'exemple qu'on donne. Donc s'il y a bien quelque chose qu'on peut faire, nia, c'est dès maintenant essayer de trouver un cabri, un mouton, et qu'Allah nous donne la facilité et accepte. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil izzati.